des jeunes filles insouciantes, des jeunes filles prévoyantes. Dans cette parabole du royaume, explicité par Jésus. Alors, quelle est la différence entre ces jeunes filles prévoyantes et les insouciantes? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont en commun avec nous que le soir, nous nous endormons parce que nous sommes fatigués, parce que la nuit nous rattrape. C'est normal, c'est naturel et c'est sain de passer une bonne nuit, et elles passent toutes une nuit bonne. Là n'est pas le problème. Elles ont été invitées aux noces, elles souhaitent rencontrer l'époux, toutes les 10. Elles ont le désir de le rencontrer jour et nuit. Elles ont cela en commun. Là n'est pas le problème. Elles ont ce désir de la rencontre. Où est leur différence ? Eh bien, les unes, alors ça, on n'a pas pu le rendre ici, parce que ce ne sont pas des lumignons qu'elles portaient, mais des lampes à huile, faites en poterie, c'est de la poterie, des lampes à huile. Et les unes avaient rechargé leurs lampes, comme aujourd'hui on recharge son portable. Les autres n'avaient pas rechargé leur huile. C'est la différence. À quoi ça correspond? Hier, le 11 novembre, nous avions le centième anniversaire de la flamme qui brûle aux soldats inconnus sous l'Arc de Triomphe. Et exceptionnellement, le président de la République a tenu un discours pour les 100 ans de la flamme qui ne s'est jamais éteinte. Et il tenait à préciser que même pendant l'occupation allemande de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une sorte de respect pour cette flamme qui donc a été alimentée jour après jour sans obstacle. Et que cette flamme alimentée tous les jours à 18h30 avec une foule de bénévoles, je crois qu'il y en avait une soixantaine présents hier à l'Arc de Triomphe, c'est grâce à eux que cette flamme est ravivée tous les jours. On ravive la flamme pour raviver la mémoire, mais aussi pour raviver sa conscience, d'appartenir à un peuple, sa conscience aussi d'une mission dans le concert des nations. On ravive la flamme, on ravive cette conscience. Il y a d'autres lieux où on ravive des flammes, où on les alimente jour après jour. Pour ceux qui connaissent la basilique Saint-Nicolas de Bari, dans les Pouilles, en Italie du Sud, depuis la venue de Jean-Paul II, il y a 35 ans, lors d'un colloque entre orthodoxes et catholiques pour trouver des chemins d'unité, il était venu, et puis, oui, parce que Bari, ça fait quand même un millier d'années que orthodoxes et catholiques se partagent le même autel, sur la même tombe, sur les eaux de Saint-Nicolas. Ils se partagent cet autel et en alternance, ils célèbrent les uns et les autres sur le même autel. C'est exceptionnel sur tout le globe qu'on se partage le même autel. Pourquoi ? Parce que les marchands de Bari voulaient avoir eux aussi des reliques. Les marchands de Venise, ils allaient trouver des reliques un peu partout en Asie mineure. Et il les ramenait à Venise, et puis on voit, il y a plein de basiliques à Venise pour le corps de l'un, pour le corps d'un autre saint. Et les gens de Bari du Sud, ils disaient quand même, nous, au moins un saint, un bon saint, qu'on ait vraiment une vraie relique pour pouvoir prier, se recueillir. Ils sont partis en Asie mineure, en Turquie actuelle, ils ont volé le corps de Saint-Nicolas aux musulmans, ils l'ont ramené à Bari, et là, et c'était juste avant la division des deux églises en 1054. Donc, les deux églises orthodoxes et catholiques nées du schisme de 1054 se revendiquaient toujours de cet amour pour Saint Nicolas. Et donc, on a trouvé une solution, ben, les uns et les autres célébreraient en alternance sur cet autel. Mais alors, Jean-Paul II se disait, mais comment est-ce qu'on va faire pour alimenter le désir de l'unité ? Eh bien, on va faire une grande lampe de poterie avec deux entrées et une seule flamme au centre. Une seule flamme alimentée par deux huiles jour après jour. La lampe est alimentée par l'huile de l'orthodoxie de l'église d'Orient et par l'huile italienne de l'église d'Occident. Ces deux huiles se mélangent et alimentent une unique flamme. Tout cela, c'est aussi, depuis 35 ans, elle brûle inlassablement pour exprimer le désir d'unité et pour que personne n'oublie cet appel à l'unité. C'est très beau, hein, ce sens de la flamme alimentée par l'huile ou les huiles. Au temps de Jésus, qu'est-ce que Jésus avait à l'esprit quand il parlait de ces lampes? Alors, quand on va en Terre Sainte, on voit que les archéologues, pour déterminer les couches civilisationnelles d'effondrement et de reconstruction, pour déterminer l'âge de ces couches sous les villes, ils utilisent le carbone 14 et la méthode des lampes. Parce que chaque civilisation du Moyen-Orient, depuis très très longtemps, avait ses lampes. Mais chaque fois, c'était une mode, un style différent de faire des lampes. Et donc, selon les bris de lampes que l'on retrouve dans la terre, sous cette couche ou l'autre, on peut déterminer l'époque de ces lampes. Donc, il y a toujours eu des lampes, et les lampes, eh bien, elles étaient dans toutes les maisons, et dans la maison de Jésus et de Marie et de Joseph aussi, certainement. Mais en ce temps-là, Jésus faisait un peu comme les rabbins, il pratiquait l'exégèse rabbinique. Il était plutôt du côté des pharisiens que des sadducéens au niveau de l'interprétation biblique. Et quand on regarde un peu les autres rabbins autour de Jésus, ce qu'ils disaient de ces lampes, ça devient intéressant. On a des commentaires au Cantique des Cantiques, illustré par des lampes à alimenter le désir des époux, alimenter leur amour, alimenter le désir de la rencontre. Donc, c'est pas étonnant que Jésus utilise lui aussi ces mêmes images dans sa parabole pour évoquer l'invitation aux noces de ces jeunes filles qui sont censés rencontrer l'époux, rien à voir avec un harem, parce qu'on a aussi l'épouse qui se manifeste dans la première lecture sous la forme de la sagesse. Et elle est désirée par les uns les autres de jour en jour. Toutes ces paraboles et toutes ces images pour évoquer le désir, pour évoquer un désir à alimenter. Alors Jésus l'exprime et il dit, eh bien, il y avait ces jeunes filles prévoyantes, et puis les jeunes filles insouciantes. Il ne leur manquait pas le désir de rencontrer l'époux. Ça, non. Elles étaient toutes animées par ce désir. Et c'est sûr que nous aussi, depuis le 1er novembre, entourés de tous les saints, mais aussi de tous les défunts, eh bien, nous nous posons la question aussi de la rencontre finale avec lui. Oui. Nous nous posons cette question pendant l'Eucharistie, nous l'évoquons, ce repas des noces de l'agneau. C'est juste avant la communion, le désir de rencontrer l'époux. Donc nous évoquons toutes ces questions. Il ne nous manque peut-être pas ce désir. Mais ce qui est en question ici dans la parabole, c'est l'insouciance et la prévoyance. Est-ce que tu as pensé de recharger ton portable pour toute la journée? Sinon, il va te lâcher. Et là, pour Jésus, c'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Il ne suffit pas d'être animé du désir de le rencontrer. Il s'agit de jour en jour, c'est ce que dit aussi la première lecture par rapport à la sagesse, il s'agit de jour en jour de recharger cette batterie, de recharger ces lampes d'huile. Parce que c'est de la manière dont j'aurai soin de recharger d'huile que je pourrai le rencontrer. Sans quoi, eh bien, les jeunes filles insouciantes n'ont plus de quoi aller à sa rencontre. Elles ne peuvent plus voir le chemin. Et l'époux leur répond, parce qu'elles ont du retard, là, il leur dit, mais je ne vous connais pas. Ah, ça signifie sans doute qu'il y a un désir à alimenter jour après jour, pas seulement pour le dernier jour, mais jour après jour. Comment est-ce que j'alimente ce désir de la rencontre? Comment est-ce que je le nourris? Par quels moyens est-ce que je vis de désir? Nous n'avons pas les mêmes expressions spirituelles que dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, en général, on nous dit qu'il s'agit d'éteindre le désir. Le Christ nous dit « ravive ton désir, alimente ton désir ». Mais alors comment? Je me suis trouvé en vacances en Ligurie. Je suis passé par un musée de l'huile. Je crois que c'était Savona ou Imperia. Déjà, j'ai oublié. Mais je n'ai pas oublié le plaisir de goûter aux huiles. Ah, un vrai plaisir. Alors les huiles peu fortes. Et puis l'huile, alors c'était gratuit. Et je ne risquais pas de m'enivrer comme d'autres qui ne choisissent pas les musées d'huile. Mais il me reste encore ces huiles très fortes qui vous restent au goût pendant 15 minutes, pendant un quart d'heure, tellement elles étaient fortes. Et là, je me suis mis à goûter à toutes les huiles et à repasser pour en regoûter. Ça reste. Alors, c'est sans doute ce qu'on appelle par sagesse saveur. En latin, sapore, en italien aussi, sapore et sapientia, c'est le même mot. La sagesse, c'est la saveur. Est-ce que chaque jour, je pense à savourer l'huile, à la savourer pour alimenter le désir de la rencontre? Il y a un travail à faire. Ce sera un travail spirituel par la prière, ce sera un travail spirituel par l'écoute de la parole, ce sera un travail concret par la rencontre avec les plus pauvres, ce sera un travail de savourer la rencontre avec mes frères, avec mes sœurs, en famille, en communauté. Ce sera tout cela, mais il y a un travail de saveur pour alimenter une rencontre et pour qu'un jour, elle puisse être effective et pas seulement dans les intentions. Bon, et bien aujourd'hui déjà, essayons de raviver cette flamme avec ces jeunes filles pour qu'un jour, cette rencontre puisse avoir vraiment lieu.